Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui peut dire qu'il est pleinement satisfait de sa vie présente? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est prêt à lever la main pour dire oui, moi je suis pleinement satisfait de ma vie présente? Quelqu'un qui gagne exactement la quantité d'argent dont il a besoin. Quelqu'un qui a une relation personnelle épanouie avec tous ses proches. Quelqu'un qui aurait le métier idéal, enfin en tout cas qui lui semblerait parfaitement idéal, quelqu'un qui n'aurait aucune raison de se plaindre au niveau de sa santé, quelqu'un qui est tous les jours content du temps qu'il fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cas aujourd'hui? Très bien. Vous êtes tous concernés par cette prédication, tant mieux. Je crois en fait qu'on est tous, n'est-ce pas, sujets à l'insatisfaction, aux déceptions et même au mécontentement pour ce qui concerne les circonstances objectives de notre vie, c'est-à-dire en fait les circonstances qui ne dépendent pas directement de nos choix. Les circonstances que nous avons l'impression plutôt de subir, que nous ne choisissons pas. Le dernier baromètre mondial de l'espoir et du bonheur, je ne sais pas si vous saviez, mais ça existe, le baromètre mondial de l'espoir et du bonheur, c'est une étude très sérieuse, a été publié le dernier, donc au 31 décembre 2012, et il est publié tous les ans à la fin de l'année. Ce baromètre mondial de l'espoir et du bonheur révèle que la France, sur un total de 54 pays dans le monde, se classe avant-dernière en termes d'espoir pour l'avenir et 30e en termes de bonheur derrière l'Allemagne et l'Afghanistan. Un autre sondage montre que les Français, pardon, montre que ce sont les Français qui, de toutes les nationalités, ont le plus la réputation dans le monde d'être des râleurs. Voilà, c'est la réalité, hein? Enfin en tout cas telle qu'elle se reflète dans les sondages. Mais est-ce que c'est une fatalité? Voilà la question. Est-ce que c'est une fatalité? Et si vous n'êtes pas français aujourd'hui, mais que vous habitez en France, est-ce que vous risquez d'être contaminé fatalement? Alors vous savez, et je pense que vous l'avez déjà remarqué, si on est croyant, on n'est pas immunisé, hein, contre cette tendance que nous avons à nous plaindre, ou du moins à déplorer intérieurement, parfois c'est dans le silence, dans le secret de notre cœur, mais en tout cas cette tendance à déplorer certaines circonstances que nous traversons et sur lesquelles nous n'avons pas vraiment de contrôle. Et si nous sommes croyants, ça revient souvent, quand on est dans cette attitude, ça revient souvent à dire que nous mettons en doute, quelque part, le plan ou la bonté de Dieu, en tout cas dans notre vie. Et si nous sommes croyants, alors, pardon, mais si nous sommes croyants, alors, en raison de notre foi en Dieu, notre perspective sur ces circonstances, en réalité, devrait être tout à fait différente du reste du monde. Et c'est un peu ce qu'on va voir ce soir. C'est la leçon du texte que Hélène va lire dans un instant, où l'auteur va nous dépeindre l'amertume d'une femme. L'amertume d'une femme du nom de Noémie. Et il va nous dépeindre son amertume de telle façon à ce que nous puissions à la fois nous identifier à elle et de façon à ce qu'en même temps, on n'ait pas envie de lui ressembler. D'accord? Donc de façon à ce qu'on puisse s'identifier à elle et en même temps, de façon à ce que nous n'ayons pas envie de lui ressembler. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier chapitre du livre de Ruth qu'on va lire en entier. Et ce qui motive l'auteur de cette histoire à rappeler cet épisode à la mémoire des Israélites, c'est vraisemblablement le fait que les Israélites de son époque, de l'époque de l'auteur, sous-estimaient le caractère parfois tout à fait inattendu de la providence de Dieu. Parfois, la providence de Dieu se déploie sous nos yeux de manière mais complètement inattendue ou inexplicable. Autrement dit, les Israélites de son époque avaient vraisemblablement oublié que dans sa providence, Dieu agissait parfois de manière très surprenante et même à l'encontre de la sagesse des hommes. Et du coup, comme c'est notre cas aujourd'hui, les Israélites, eh ben, ils étaient disposés à observer les circonstances objectives de leur vie, parfois franchement désagréables, et ils finissaient par tomber, comme nous aujourd'hui, en proie à l'insatisfaction, en proie à la déception, en proie au doute, au mécontentement et en fin de compte, à l'incrédulité. Mais à cette tendance et à ce danger, le texte qu'on va lire veut opposer une leçon toute simple et c'est la suivante. Réfléchis un peu et arrête de douter de la compétence de Dieu. Réfléchis un peu et arrête de douter de la compétence de Dieu. Autrement dit, quelles que soient les circonstances actuelles de ta vie aujourd'hui, tu dois les considérer, ces circonstances, à la lumière de qui est Dieu et de ses promesses. D'accord ? Alors je vais inviter Hélène à venir devant faire cette lecture. Il s'agit du livre de Ruth, chapitre 1 en entier.
À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel le fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterrée. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ? » C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, se revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge.
Merci, Hélène. Je vous invite à prier. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est fiable, et nous te prions de l'utiliser maintenant, ta parole, pour nous instruire sous l'action de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Réfléchis donc un peu et arrête de douter de la compétence de Dieu. Ça, c'est la leçon du texte. Et la première chose que l'auteur veut nous faire comprendre, ou peut-être nous rappeler, c'est que la providence de Dieu n'est pas guidée par notre bonheur immédiat. La providence de Dieu n'est pas guidée par notre bonheur immédiat. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la providence de Dieu ? Eh bien, on parle du fait que Dieu gouverne souverainement toutes circonstances selon son plan immuable. C'est ça la providence de Dieu. Dieu gouverne toutes choses selon son plan immuable. Il le fait de façon souveraine. Et donc, quand on lit le début de cette histoire, il ne fait aucun doute dans l'esprit de l'auteur qui nous rapporte ces choses, ni dans l'esprit des lecteurs, des Israélites qui ont découvert ou qui ont lu cette histoire lorsqu'elle a été écrite. Il ne fait aucun doute dans leur esprit que les épreuves qui vont s'abattre sur Noémie et sa famille sont bel et bien le fait de la providence de Dieu. Et c'est un genre de prologue qu'on trouve au verset 1 à 5 au début de ce livre hein, de Ruth, ce prologue décrit une lente accumulation d'épreuves. Hein. Et c'est une espèce de spirale descendante, une série noire si vous voulez. D'abord, le texte nous dit que c'est une période instable moralement pour les Israélites, c'est la période des juges. Et si vous étudiez avec nous le jeudi soir le livre des juges, vous savez que la période des juges, c'est une époque de grande instabilité morale pour Israël. Et puis deuxièmement, dans ce contexte, il y a une famine. Et souvent, les famines, c'était le jugement de Dieu contre son peuple pour l'inciter à se repentir et à revenir à lui. Donc, situation instable moralement, famine, donc épreuve physique, économique. Du coup, une famille, troisièmement, se réfugie en territoire étranger, territoire païen, le territoire de Moab, c'est pas du tout en Israël, c'est à côté, et ce sont des ennemis d'Israël. Quatrièmement, on apprend que dans ces circonstances déjà difficiles, le mari de Noémie meurt, il s'agit d'Élimélec. Et puis ensuite, cinquièmement, on apprend que ses fils, orphelins de leur père, vont épouser des femmes étrangères, ce qui n'est pas franchement une bonne chose pour un Israélite, pour une famille israélite. Sixièmement, ses maris, les fils de Noémie, meurent à leur tour. Et septièmement, on a ce constat un peu lapidaire à la fin, la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Ça, c'est la fin du verset 5. Je ne sais pas quel effet ça vous fait en lisant ce prologue, ces cinq premiers versets. Moi, j'ai l'impression de relire l'histoire de Job, sauf que cette fois, c'est une femme. La pauvre, quelle accumulation d'épreuves. Mais il y a deux choses qu'il faut remarquer dans ce petit prologue, contrairement à l'histoire de Job que l'on découvre dans un autre livre de l'Ancien Testament. D'abord, le récit est sobre. On ne sait pas, par exemple, comment ils sont morts, ces hommes, ni Élimélec, ni ses fils. Et ensuite, il faut remarquer le fait que les personnages dont il est question ici sont des personnages très, très ordinaires. Très ordinaires. Des gens comme vous et moi, ce n'est pas des grands héros, c'est ni des juges, ni des prophètes, ni des rois, des gens ordinaires, une famille ordinaire. Le but du texte ici, à mon avis, c'est qu'on puisse s'identifier à ces gens en lisant leur histoire. Ce n'est pas une histoire proprement extraordinaire, c'est une histoire finalement assez ordinaire. C'est un peu comme un reportage qu'on pourrait voir à la télé. Il en passe des fois des reportages de ce type qui racontent les difficultés d'une famille ordinaire, comme vous, comme moi. Mais puisqu'il s'agit d'une famille si ordinaire, par conséquent, quand on regarde ce reportage, on peut facilement s'imaginer dans leur situation. On peut facilement s'imaginer subir les mêmes épreuves qu'ils sont en train de subir et qui nous sont présentées dans ce reportage. Par exemple, subir l'inondation de sa maison, ou bien un accident de voiture, ou la perte d'un parent ou d'un enfant. On peut facilement s'imaginer parce que ce sont des gens dont la situation, à la base, est tellement ordinaire et ils ressemblent tellement à la nôtre. Et donc l'auteur aborde son récit en nous permettant ici, dès les premiers versets, de nous projeter très rapidement dans la situation. Et du coup, on a de la peine pour Noémie, n'est-ce pas ? On a de la peine pour cette femme qui nous ressemble, pour cette famille qui nous ressemble. Et on se dit naturellement, mais ces choses pourraient facilement m'arriver. D'ailleurs, certaines d'entre elles vous sont peut-être arrivées. Ou alors des choses semblables. C'est une histoire, vous voyez, réaliste. Une histoire proche de notre situation à nous, proche de notre condition à nous. Je pourrais très bien être Noémie. Je pourrais très bien être comme elle, membre ordinaire du peuple de Dieu. Et son expérience qui nous est décrite ici, comme la mienne que je peux observer quotidiennement, m'oblige et vous oblige ce soir à constater et à vous souvenir de cette réalité. C'est que la providence de Dieu, de ce Dieu qui gouverne tout selon son plan immuable, la providence de Dieu n'est pas guidée par votre bonheur immédiat ni par le mien. C'est une évidence. Et donc ces cinq premiers versets ont pour but de nous aider à nous identifier à la situation de Noémie et de nous ramener à une vision réaliste de notre vie. Oui, Dieu est parfaitement souverain. Oui, il gouverne toutes circonstances selon son plan, mais parfois, les dites circonstances sont pénibles. Parfois, ces circonstances sont même inexplicables à nos yeux, ce qui nous amène au deuxième point et à la suite du récit. Versets 6 à 13. La deuxième chose que l'auteur veut nous faire comprendre cette fois, ou peut-être nous rappeler, c'est que la providence de Dieu n'a pas de compte à rendre à notre sagesse. La providence de Dieu n'a pas de compte à rendre à notre sagesse, à la sagesse des hommes. Ce que l'auteur nous raconte au verset 6 à 13, c'est l'attitude de Noémie suite à la perte de son mari et de ses deux fils. L'attitude de Noémie suite à ces terribles épreuves. Il n'a pas été question de son attitude à elle jusqu'alors, mais à partir du verset 6, il va être question de cela. Et ce qu'on découvre, c'est une Noémie abattue, désabusée avec la vie, résignée. Elle est apparemment en proie au doute par rapport même à sa relation avec Dieu. Regardez ce qui se passe dans le texte. Elle entend parler, au verset 6, d'un signe de la faveur de Dieu envers son peuple. « Tiens, la famine est terminée dans mon pays d'origine, en Juda. » En Juda, c'est une région d'Israël. « Dieu donne du pain à son peuple. » Signe de la faveur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Par conséquent, elle renvoie quand même ses belles-filles à Moab, en terre étrangère, là d'où elles sont originaires. Comme s'il était plus vraisemblable pour Noémie qu'elles y trouvent là-bas le bonheur. Vous avez noté ce contraste, ce paradoxe, cette contradiction, semble-t-il. Elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Et puis deux versets plus loin, Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous. » Et au verset 9, « Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Comme si l'Éternel allait être plus enclin à les bénir là-bas, comme s'il était plus vraisemblable qu'elles soient bénies et qu'elles trouvent le bonheur à Moab qu'à Juda, là où Dieu est pourtant en train d'agir en faveur de son peuple. Elle est désabusée, elle est résignée, elle met en doute sa relation avec Dieu. Alors les belles-filles vont refuser, désirant plutôt rester attachées à Noémie et à son peuple, disent-elles, verset 10, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple, c'est-à-dire vers le peuple de Dieu. » Le peuple d'Israël, le peuple de l'Éternel. Mais malgré cette affirmation, cette insistance, Noémie, à son tour, va insister en leur disant qu'elle ne voit vraiment pas comment elle pourrait être heureuse auprès d'elle, de son peuple et de son Dieu. C'est grave ce que dit Noémie là, hein, verset 13. « Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Non, ne me suivez pas. Ne venez pas vers mon peuple, ne venez pas vers le peuple de Dieu. Retournez plutôt à Moab. Il y a plus de chances que vous soyez heureuses là-bas. » Ce que l'auteur nous montre ici, c'est que la sagesse de Noémie s'est élevée en rivale de la sagesse de Dieu. Elle a tiré des conclusions de sa situation, de son expérience, et elle estime savoir ce qu'il vaut mieux pour ses belles-filles. Et la réalité, c'est qu'on a tous un cerveau semblable à celui de Noémie. On est tous enclins à penser de la même façon que Noémie. Nous sommes prompts à tirer des conclusions de ce que nous observons autour de nous, à tirer des conclusions des expériences que nous faisons, des circonstances que nous traversons. Le résultat, c'est que nous pensons savoir ce qui devrait être. Ça, cette situation est anormale. Je sais ce qui devrait être à la place. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons comme ça, nous devenons peut-être malgré nous des espèces d'inspecteurs de la providence de Dieu. Des juges de la providence de Dieu, comme s'il nous appartenait d'évaluer la sagesse de Dieu, de notre Dieu souverain qui gouverne toutes choses selon son plan. Comme s'il nous appartenait d'évaluer sa sagesse, comme si la providence de Dieu devait être soumise à notre critique et à notre appréciation à nous. Mais si la providence de Dieu avait des comptes à rendre à notre sagesse, imaginez le chaos que ce serait sur la terre. Parce que, en fin de compte, ce ne serait pas juste mon plan qui ferait concurrence au plan de Dieu, hein. Ce serait plus de 7 milliards de plans différents qui feraient concurrence au plan de Dieu, et en plus les uns contre les autres, puisqu'on est plus de 7 milliards sur Terre. Dans le film Bruce Tout-Puissant, alors ne riez pas tout de suite, parce que je sais que j'y ai fait référence il n'y a pas très longtemps en disant que ce n'était pas un film terrible, mais quand même, on y trouve pas mal d'illustrations. Dans le film Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey, il y a un moment où Bruce, à qui Dieu a confié certaines de ses prérogatives pour lui apprendre une leçon, eh bien, il y a un moment où Bruce, donc qui a certaines prérogatives de Dieu, va répondre oui simultanément à toutes les prières émanant des gens de sa ville. Donc il se dit, bon, c'est plus facile si je dis oui à tout le monde, à tous les croyants qui prient aujourd'hui, je dis oui à tout le monde. Ce qui déclenche le chaos dans la ville, enfin des émeutes, pas possible, enfin c'est horrible les conséquences, parce que, en fait, en faisant cela, Bruce a répondu oui à des désirs et à des plans qui étaient contradictoires. Et donc il a provoqué le chaos. Heureusement donc que la providence de Dieu n'a pas de compte à rendre à notre sagesse. Heureusement, franchement. Ça se passerait pas très bien sinon. La providence de Dieu répond à sa sagesse à lui. D'accord ? Et puisqu'il est Dieu, par définition, il n'y en a pas d'autre comme lui, hein, puisqu'il est Dieu, sa sagesse est parfaitement fiable. C'est la meilleure. Vous ne pouvez pas trouver de sagesse meilleure que celle de Dieu, parce que c'est une sagesse divine. Et l'auteur veut que nous en soyons convaincus à ce moment du récit. Contrairement à Noémie, qui dans ce texte est centrée sur elle-même. Et d'ailleurs, on peut lui trouver des excuses, franchement, on peut la comprendre, hein, vu ce qu'elle a subi. Son attention est quand même sur elle-même, sur ce qu'elle a subi. Et forcément, on peut comprendre qu'elle en ait tiré des conséquences, des conclusions. Elle a perdu de vue. Enfin, le problème, c'est qu'elle a perdu de vue la personne et les promesses de Dieu. Puisque son attention était sur elle-même plutôt que sur l'Éternel et sur ses promesses. Elle a perdu de vue la personne et les promesses de Dieu. Ce qui nous amène au troisième point. Et la troisième chose, versets 14 à 18 cette fois, que l'auteur veut nous faire comprendre, peut-être, encore une fois, qu'il veut simplement nous le rappeler, parce que j'imagine que beaucoup d'entre nous, nous le savons déjà au fond, c'est que la providence de Dieu n'est jamais indépendante de son amour. La providence de Dieu n'est jamais indépendante de son amour. Ce qui se passe maintenant dans le récit est vraiment remarquable et c'est le cœur de ce chapitre. L'une des belles filles de Noémie accepte de partir. Orpa, elle accepte de partir. Mais pas la seconde. Pas Ruth. Noémie insiste. Elle insiste pour que Ruth parte. Elle insiste en des termes si graves que Noémie commet une forme d'apostasie. Puisqu'elle incite Ruth, verset 15, à retourner à son peuple et à ses dieux. Vous avez remarqué ce qui est dit là. Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. C'est super grave, non ? Et alors, à partir du verset 16, on a une déclaration solennelle qui sort de la bouche de Ruth. Et dans cette déclaration, Ruth exprime à Noémie ce que certains commentateurs ont appelé un amour alliantiel. Un amour alliantiel, c'est-à-dire un amour caractérisé par un engagement vis-à-vis de Noémie, un engagement unilatéral, inconditionnel et irrévocable, ce qui est le propre de l'alliance que Dieu lui-même a conclue avec son peuple. Voilà pourquoi il s'agit d'un amour alliantiel, caractérisé par les mêmes choses que celles qui caractérisent l'amour de Dieu pour son peuple et qui s'exprime dans son alliance avec son peuple. Vous avez noté le langage vraiment fort, vraiment solennel de cette déclaration de Ruth. Hein. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. C'est un amour que Ruth porte envers Noémie, ça dépend de vos traductions. C'est un amour qui ne peut pas exister s'il ne découle pas de l'amour que Dieu lui-même porte à son peuple. Autrement dit, dans cet épisode, dans ce premier chapitre, c'est la belle-fille moabite, donc païenne, qui est devenue pour Noémie l'emblème vivant de l'amour de Dieu pour son peuple. Et par conséquent pour Noémie. Ruth est devenue pour Noémie l'emblème vivant, visible, tangible de l'amour que Dieu porte envers son peuple et que Noémie avait mis en oubli. Contrairement à Noémie, la perspective de Ruth dans ce passage est manifestement conditionnée, mais en profondeur, par sa compréhension de qui est Dieu et de ses promesses. Manifestement, elle a beaucoup mieux intégré que Noémie ce qui caractérise l'amour que Dieu porte envers son peuple et qui s'exprime dans son alliance. Elle, Ruth, est païenne, mais elle est réellement convertie à l'Éternel. Tandis que Noémie, elle est israélite dans ce passage, mais elle est réellement en proie au doute vis-à-vis de l'Éternel et de ses promesses. Mais ce qu'on voit ici, c'est que malgré les doutes de Noémie, malgré des paroles, on l'a vu, qui étaient presque des paroles d'apostasie, hein, peut-être même à cause des doutes de Noémie, dans ce passage, Dieu donne Ruth à Noémie comme le signe flagrant de son amour, alors même que la providence de Dieu a été très pénible dans la vie de Noémie. C'est comme si Dieu lui disait, « Noémie, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Je sais que tu ne comprends pas, Noémie, ce que je suis en train de faire dans ta vie, mais regarde, regarde Ruth. Voici le signe certain de mon amour pour toi et de la fiabilité de mes promesses. C'est cette jeune femme, Moabite, qui n'a pas grandi dans une maison israélite, qui n'a pas grandi en entendant la loi de Dieu, mais elle a compris. Elle, l'amour que je porte envers mon peuple, eh bien elle, ça l'a conditionné, ça l'a transformé. Elle a compris. Et elle t'aime d'un amour semblable à celui dont j'aime mon peuple, et donc toi, Noémie. Imaginez un père de famille qui devrait quitter sa femme et ses enfants pour plusieurs mois pour des raisons qu'il ne peut pas pleinement leur expliquer, peut-être parce qu'il est un agent secret et qu'il est envoyé en mission très dangereuse et qu'il en va de la sécurité même du pays. Et bien ce père de famille, s'il aime sa femme et ses enfants, avant de partir, il serait sans doute enclin à leur laisser quelque chose, un objet peut-être, une lettre, un cadeau emblématique comme gage de son amour pour eux. Quelque chose que sa femme et ses enfants pourraient considérer chaque jour. Ils pourraient le mettre sur une étagère bien visible. Quelque chose qu'ils pourraient voir et considérer chaque jour pour se rassurer, pour conforter leur conviction que cet homme les aime. Même s'il n'est pas là pour leur dire lui-même, même si cette femme et ses enfants ne comprennent pas pourquoi cet homme a dû quelque part les abandonner. Quelque temps du moins. Et permettre qu'il traverse ces circonstances difficiles, c'est-à-dire vivre sans lui pendant plusieurs mois. Et de la même façon, nous non plus, nous ne comprenons pas, et pas plus que Noémie, pas plus que Ruth d'ailleurs, nous ne comprenons pas comment fonctionne la providence de Dieu. Enfin, si vous savez comment fonctionne la providence de Dieu, vous viendrez me le dire après le culte pour que je puisse apprendre, hein, mais... Nous ne comprenons pas comment fonctionne la providence de Dieu qui, d'une part, comme on l'a dit, n'est pas guidée par notre bonheur immédiat, d'autre part, qui n'a pas de compte à rendre à notre sagesse humaine. Mais ce dont nous pouvons être certains, c'est que la providence de Dieu n'est jamais indépendante de son amour. Elle est inséparable de son amour. Et pour en être certaine, Noémie n'avait qu'à regarder Ruth, la Moabite, constater sa foi en l'Éternel, se souvenir de sa déclaration solennelle d'amour, comprendre à travers elle combien l'amour alliantiel de Dieu pour son peuple est irrévocable malgré les circonstances pénibles qu'elle doit traverser. Et ainsi, Noémie pouvait se souvenir que le plan de Dieu, en fin de compte, est un bon plan. C'est un bon plan, même si on ne comprend pas comment il se manifeste, comment il se déploie. Parce que Dieu a donné un gage certain de son amour irrévocable pour son peuple. Noémie pouvait être certain que le plan de Dieu était quand même un bon plan. Et à nous, Dieu nous a donné mieux qu'une Ruth comme gage de son amour pour nous. Dieu nous a donné mieux qu'une Ruth. Il nous a donné Jésus, son propre Fils, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Comment douter de l'amour de Dieu, de la fiabilité de ses promesses ? Quand on considère la croix où le sang du Fils de Dieu a coulé en faveur de gens comme vous et moi et Noémie, des gens qui par nature sommes égocentriques, nous qui sommes ingrats et incrédules, nous dont le bonheur immédiat est notre principale préoccupation. Le Fils de Dieu dont le sang a coulé sur la croix pour des gens comme nous. Nous dont la sagesse voudrait rivaliser pourtant avec celle de Dieu. Comment douter de l'amour de Dieu et de la fiabilité de ses promesses quand on considère la personne et l'œuvre de Jésus, franchement. Mes amis, si nous n'avons pas conscience que Dieu nous aime, si aujourd'hui vous n'avez pas conscience que Dieu vous aime, si vous n'avez pas conscience que la providence de Dieu est inséparable de son amour, et si vous n'aviez pas en la croix la preuve de cet amour, comment ne tomberiez-vous pas en proie à l'insatisfaction, à la déception, au doute, au mécontentement et en fin de compte à l'incrédulité, étant donné les circonstances pénibles que nous sommes tous amenés à traverser. Et c'est ce qui nous amène au quatrième et dernier point. La quatrième et dernière chose que l'auteur veut nous faire comprendre ou nous rappeler, encore une fois, c'est que la providence de Dieu doit nourrir notre confiance. La providence de Dieu doit nourrir notre confiance. L'auteur veut nous faire comprendre cela, cette fois à travers le contre-exemple de Noémie. Clairement le contre-exemple de Noémie. Parce qu'après la déclaration solennelle, émouvante et même bouleversante de Ruth, qui lui a déclaré son amour en des termes exceptionnels, après cette déclaration, la réaction de Noémie est censée nous surprendre. Comment réagit-elle? Elle déclare juste après, quand elle arrive à destination, chez elle, elle déclare avec véhémence, non pas sa gratitude, non pas sa confiance en Dieu, mais son amertume. Ne m'appelez plus Noémie, ça veut dire charmante. Appelez-moi Mara, ça veut dire amère. Et tout en reconnaissant la souveraineté de Dieu, elle nie l'amour de Dieu pour elle. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Et juste avant, comblé j'étais parti, vide l'Éternel me ramène. Comme si Ruth n'était même pas là. Comme si Dieu ne lui avait même pas donné Ruth comme gage de son amour pour elle. Comme si Ruth était devenue parfaitement insignifiante à ses yeux. Comme si ce que Dieu venait juste de faire était devenu insignifiant à ses yeux. Rappelez-vous, je le disais en introduction, l'auteur nous raconte cette histoire de façon à ce que nous puissions à la fois nous identifier à Noémie et en même temps ne pas vouloir lui ressembler. Et puisque Dieu nous a donné à nous aussi le gage de son amour irrévocable en la personne et l'œuvre de Jésus, nous devrions, nous, contrairement à Noémie dans ce texte, être enclins à lui faire confiance. Puisqu'il est bon, puisqu'il nous a donné ce signe de son amour, ce gage de son amour, on devrait être enclin à lui faire confiance à sa providence, puisque, comme Dieu est bon, son plan, forcément, est bon aussi. Imaginez que vous vous présentiez à l'aéroport pour faire un long voyage en avion, d'accord? Mais vous avez très très peur de monter dans l'avion, parce que c'est la première fois que vous allez prendre un avion. Et vous avez entendu parler de ces crashs qui ont fait des centaines de morts. Vous avez entendu parler de ces pilotes qui s'endorment dans le cockpit. Vous avez remarqué l'étude qui a été faite récemment chez British Airways. Je ne sais pas quel pourcentage de pilotes dorment pendant le vol. Vous avez entendu parler peut-être de jeunes pilotes sans expérience qui font des erreurs de débutants. Vous avez peur, bien sûr, vous avez peur de monter dans cet avion. Vous n'avez aucune idée de la compétence de la personne qui va conduire votre appareil. Vous imaginez le pire. Un punk qui va prendre les commandes avec 2 grammes d'alcool dans le sang, qui va vouloir faire des loopings pour impressionner les hôtesses, vous ne savez pas. Vous imaginez le pire. Mais pendant que vous êtes dans la salle d'embarquement, vous surprenez une conversation entre 2 agents de l'aéroport et vous découvrez que le pilote qui va conduire votre avion, c'est le commandant Chesley Sullenberger. Non, vous ne savez pas qui c'est, hein. Pourtant, c'est le pilote qui a sauvé la vie à 155 personnes le 15 janvier 2009 en faisant amerrir son Airbus A320 dans le fleuve Hudson à New York, alors que l'avion avait perdu l'usage de ses réacteurs. Ah, bah alors là, en apprenant cela, bien sûr, vous voilà tout d'un coup beaucoup plus rassuré à l'idée de prendre l'avion, étant donné la compétence. Et l'expérience du pilote qui va être aux commandes, ça change tout. Vous avez peut-être encore un petit peu le trac, mais vous avez quand même beaucoup moins peur. Finalement, ça ne va pas être un punk ivre qui va appuyer sur tous les boutons, tout ça. Bon. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez la compétence et l'expérience du pilote de votre vie? Il vous a donné le gage de son amour pour vous en la personne et l'œuvre de Jésus. Ce gage vous est présenté à chaque fois que vous ouvrez l'Écriture sainte pour la lire. À chaque fois que vous venez au culte, à chaque fois que vous prenez le pain et la coupe, comme on va le faire dans quelques instants, le gage de l'amour de Dieu pour vous vous est présenté en ces choses. Dieu vous a attesté son amour et la fiabilité de toutes ses promesses. Il gouverne votre vie dans sa providence et sa providence doit par conséquent nourrir votre confiance. Parce que celui qui tient les rênes de votre vie est parfaitement compétent. Mais non seulement il est parfaitement compétent, mais il vous aime. Il vous aime. Même si vous ne comprenez pas tout ce qu'il fait, vous pouvez savoir pour sûr que lui, il sait ce qu'il fait et qu'il vous aime. Vous pouvez le savoir pour sûr. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'il est pleinement satisfait de sa vie présente? Non, bien sûr. Personne ne peut dire ça. Nous constatons tous que notre vie est soumise à des circonstances objectives qui nous laissent insatisfaits, souvent déçus, parfois amers, comme Noémie. Nous sommes enclins, nous tous ici, à sous-estimer le caractère inattendu, parfois inexplicable, souvent désagréable, de la providence de Dieu, ce qui nous conduit naturellement à douter du plan de Dieu ou de sa bonté. Mais, la leçon du texte, réfléchis un peu et arrête de douter de la compétence de Dieu. Puisqu'il est Dieu, il gouverne toutes choses selon sa volonté souveraine. Mais celui qui fait cela n'est pas un Dieu méchant ou cruel. Il est un Dieu bon qui nous a donné le gage de son amour pour nous en son Fils Jésus qui est mort pour nous. Nous avons donc toutes les raisons de lui faire confiance. La pénibilité ou l'inexplicabilité des circonstances que tu es peut-être en train de traverser aujourd'hui, ces jours-ci, cette semaine, cette année, je ne sais pas. La pénibilité ou l'inexplicabilité de ces circonstances ne remettent pas en cause la validité du plan de Dieu qui, en fin de compte, est bon parce que lui est bon. Et un jour, tu le verras pleinement. En attendant, quelles que soient les circonstances actuelles de ta vie, il faut que tu les considères, ces circonstances, à la lumière de qui est Dieu et de ses promesses. Ainsi, contrairement à Noémie, dans ce texte, toi tu pourras affirmer cette vérité de l'Écriture, d'après laquelle toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen.